10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et le samedi, entre 10h et 11h, c'est l'islam au présent, une heure pour parler d'islam avec l'imam Abdelali Mamoun. Comment ça va, imam Abdelali?
Salam alaikum, alhamdoulilah, ça va très bien. Philippe et toi, j'espère que tu te portes bien.
Je vais beaucoup mieux depuis que j'ai réussi à vous gratter 50 centimes.
Ouais, bah je pense parce que comme t'as oublié ta clé.
J'ai tout oublié aujourd'hui.
Si ton invité, tu vas avoir un invité tout à l'heure, peut-être qu'il en aura besoin.
J'ai plein d'invités, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti, voilà, j'ai changé d'affaires. Et souvent, quand vous transférez pas vos affaires d'une poche à une autre.
Ah oui. Voilà. Ah ouais, vous partez bredouille.
Voilà, j'étais bredouille.
Donc t'étais bredouille, voilà.
Voilà.
Dis donc. Eh ben.
Et vous êtes bredouille?
Non. J'avais 50 centimes.
Ah voilà.
Non, j'avais 1 euro, je me suis pris un café.
Voilà. Et donc, vous m'avez très gentiment proposé les 50 centimes.
De... voilà, pour que tu puisses toi aussi boire ton café.
Qui restait. Bien. Voilà. Imam Abdelali, nous allons parler ce matin de la piété. Alors, qu'est-ce que la piété que Dieu relate comme un devoir dans le Coran?
Alors, ça se dit en arabe taqwa. Hein, ça taqwa. Et ce qui est incroyable, c'est que cette expression-là, comme vocabulaire religieux n'existe que dans l'islam. C'est-à-dire, on ne retrouve pas ce mot piété chez les chrétiens, chez les juifs. Tu n'entends pas un curé dire à ses fidèles faites preuve de piété. Voilà, il ne parle pas de ce terme que nous on appelle en arabe, que l'on intitule en arabe taqwa, taqwa Allah. Chez les juifs, c'est pareil. On ne trouve pas ce vocabulaire. On va trouver cheminement spirituel. On va trouver plein de mots. Hein. C'est pas pour dénigrer les autres religions que je dis ça. C'est simplement pour préciser que ce mot-là est un mot spécifique à la religion musulmane.
Alors là, on est en train de parler d'équivalence, hein, parce qu'il peut y avoir des équivalences.
J'ai pas vu. Moi, je sais pas.
On parle de piété. Enfin, la piété, le mot en tant que tel est utilisé.
Il est très rarement utilisé dans le vocabulaire des prêches et des sermons chrétiens ou juifs. Moi, j'en écoute souvent pendant le dimanche matin. Tout ça m'amuse des fois écouter les émissions, voire même d'écouter sur le net des prêches, etc. Pour un petit peu récupérer un certain nombre de vocabulaires qui sont très intéressants parfois. Vous avez des vocabulaires. Parce que aujourd'hui l'islam fait partie du paysage français et donc il faut que l'islam s'imprègne et intègre le langage français.
Mais regardez, piété, pieux, et le mot pieux est utilisé
souvent. Oui, le mot pieux, mais le mot piété, en islam il est essentiel, il est au cœur de toute, on va dire, exhortation. Un imam sur le mimbar qui n'évoque pas la piété tous les vendredis, c'est un imam qui a négligé son prêche. Il aura commis une négligence à l'égard de son devoir de prêcheur du vendredi. Obligé, il va évoquer au moins, comme le faisait le prophète, en introduction de tous ses prêches, où vous les croyants, faites preuve de piété de la meilleure des façons. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Et taqullah, du mot taqwa, haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Ensuite, il citait le deuxième verset, c'est toujours en rapport avec la piété. Il dit, ya yuhannas uttaqu rabbakum, ou vous les gens faites preuve de piété à l'égard de votre Seigneur. Et ensuite il citait le troisième verset. Il disait, ya alladhina amanu taqullaha wattaqullaha wa qulu qawlan sadida, et ciblez vos mots et ciblez votre langage, faites attention à ce que vous dites. Donc ces trois versets là. Là, je n'ai cité que le début du verset, bien entendu, mais c'est au début de ce verset où Dieu, ce qu'on appelle, fait cette injonction, donne l'ordre à ses adorateurs de faire preuve de piété. Ils disent parfois, adorez votre Seigneur, adorez votre Créateur, votre Seigneur. Oui, mais là, celui qu'on retrouve le plus souvent dans le Coran, c'est l'expression ittaqo, du verbe ittaqa, dont le radical est la taqwa, qui veut dire la piété. Voilà, en gros, pour répondre à cette question, bien entendu, il faut maintenant expliquer qu'est-ce que ça veut dire la piété. La piété, vous avez énormément de définitions, mais vous en avez une que j'aime, que j'apprécie beaucoup, et qui est une manière de disloquer tous les aspects de la piété à travers trois formules que le calife, le grand imam Ali ibn Abi Talib, nous a transmis. Il dit, Sayyidina Ali, radiallahu anhu, que Dieu l'agrée, et que Dieu, comme on dit, parce qu'on a une expression spécifique pour le calife Ali, c'est karram Allah wajha, que Dieu anoblit sa face. Vous savez pourquoi et c'est que pour Ali qu'on dit cette phrase-là. Pourquoi? Parce que Ali est l'un des rares compagnons qui ne s'est jamais prosterné devant une statue. tous les autres compagnons avant l'islam, avant l'avènement d'islam, se prosterner, adorer des idoles, sauf Ali ibn Abi Talib. Lui, il ne s'est jamais prosterné devant une idole. Il n'a jamais accepté de s'incliner. Donc, les savants ont accordé à Sayyidina Ali une invocation spécifique, alors que tous les autres ont dit que Dieu l'agrée, que Dieu soit satisfait de lui, radiyallahu anhu, voilà en arabe, radiyallahu anhu. Eh bien, en plus de radiyallahu anhu pour Sayyidina Ali, pour le calife Ali, eh bien, souvent les savants vont dire karramallahu wajha, c'est-à-dire que Dieu anoblit sa face, son visage, puisque son visage ne s'est jamais prosterné, ne s'est jamais humilié à s'incliner devant une idole. Donc Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il nous rapporte? Il nous dit, quand on l'a interrogé sur la définition de ce qu'est la taqwa, il dit, qu'est-ce que la taqwa? Il a répondu, la taqwa, c'est d'abord la peur du majestueux. Huwa al-khawfu min al-jalil. C'est le fait de craindre le majestueux qui est Dieu. Huwa al-khawfu min al-jalil. Alors, on dit le majestueux, c'est parce que il y a ce qu'on appelle une saja, une rime. Il a rimé dans toutes les formules. Il termine toutes ses rimes, toutes ses phrases par il. Dans lequel il dit donc en premier, huwa al-khawfu min al-jalil, c'est la crainte du majestueux. Ensuite, il dit wa ar-ridha bil-qalil, et se satisfaire du peu. Al-qalil, c'est ce qui est peu. C'est-à-dire, si Dieu t'accorde dans ta vie un peu d'argent, ne va pas par cupidité essayer de t'accaparer de manière illicite le bien d'autrui. Wa ar-ridha bil-qalil wa al-amal bit-tanzil. Wa al-amal bit-tanzil, c'est la troisième, il dit c'est le fait d'être en harmonie, de réaliser l'intégralité de ce qui a été descendu au prophète Mohammed, ce qui a été révélé au prophète Mohammed. Et enfin, il dit, c'est le fait de se préparer pour le jour du départ. Le jour du départ, en l'occurrence, le jour où est-ce que les hommes devront rendre des comptes devant leur créateur, l'istadad liyoum al-rahil, ça veut dire l'istadad liyoum al-qiyama. C'est le fait de se préparer pour le jour du jugement dernier. Donc voilà comment définit-il cette notion de taqwa. Et donc la taqwa, c'est tout un effort, tout un travail dans lequel le croyant réalise ces quatre manières de vivre la taqwa. C'est d'abord la crainte du majestueux. Il est constamment dans le souci de ne pas être sous le courroux de Dieu, de ne pas subir la malédiction de Dieu. Et la seule manière de le faire, c'est de ne pas être à l'endroit qui déplaît à Dieu. À l'endroit, c'est-à-dire que ça soit dans le comportement, dans le lieu, ou bien entendu dans le moment qui déplaît à Dieu, et en y accomplissant des actes détestables. Donc c'est cette crainte-là que Dieu attend de nous. Ensuite, il dit, acceptez ce que Dieu t'a accordé. Tu travailles, tu fais ce que tu veux, ce que tu peux dans sa vie, dans ta vie. Maintenant, ce que tu as pu obtenir grâce, de manière halal, de manière licite, dans ce bas monde, eh bien, si à partir du moment où ça comble tes besoins, tu n'as pas besoin d'aller chercher quelque chose qui est illicite. Et il dit ensuite à cela, il ajoute à cela, c'est le fait de mettre en œuvre, c'est-à-dire donc d'être dans cette quête du savoir qui permet d'être en conformité à ce qui a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Ce savoir, qu'est-ce qui est bien entendu le contenu de la parole divine, et bien entendu qui est son explication, ses exégèses et sa compréhension profonde, conformément à comment elle a été expliquée par le prophète et comprise par les compagnons qui ont vécu autour du prophète. Et enfin, c'est le fait de constamment se dire, voilà, un jour je vais mourir, qu'est-ce que je porte avec moi? Quelles sont les provisions que j'emporte avec moi? Comment je vais pouvoir affronter ce jour où je devrais rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc il est constamment dans la quête de s'approvisionner en piété, en acte de bienfaisance. Il est constamment dans le souci d'alourdir sa balance en hasanat. C'est une métaphore, la hasanat, Philippe, faut pas t'inquiéter par rapport à ce mot-là qui te fait peur. Les hasanat, qui sont les bonnes actions, c'est une manière pour Allah subhanahu wa ta'ala de dire, voilà, il y a une justice. Vous savez, souvent, même dans les tribunaux, on symbolise la justice en utilisant des balances. Tu sais, la balance du bien et du mal.
Avec les deux plateaux.
Les fameux deux plateaux. Mmh. Eh bien, c'est pareil. Dans ce bas monde, on commet des péchés et on accomplit des nobles actions. Donc forcément, ces deux choses-là ne peuvent pas faire l'objet de on va dire d'insouciance de la part de notre Créateur, puisqu'il dit dans un verset du Coran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, celui qui accomplit ne serait-ce qu'un atome de bien, il le verra. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, et celui qui accomplit ne serait-ce qu'un atome de mal, il le verra. Donc c'est à nous à partir de là de se dire non, Dieu, il y a rien qui y a rien qui était, on va dire, négligé par Dieu, ou Dieu par exemple a oublié, ah bah tiens non, au fait on a oublié, tel jour t'as fait telle bêtise ou tel jour t'as accompli telle bonne action. Non, tout ce que tu auras fait dans ce bas monde te sera présenté si Dieu bien entendu le décide, hein, puisqu'on a des hadiths, des références par sa grande miséricorde, hein, et on a par exemple ce beau hadith que j'apprécie beaucoup, c'est celui qui, dans ce bas monde, n'a pas dévoilé les bêtises qu'il a commises, il n'a pas été les raconter à autrui, il n'a pas été fier d'avoir commis telle et telle faute. Hein, il y a certains qui disent, ouais, moi hier, j'ai réussi à faire un casse, j'ai été voler le sac de la vieille, ou j'ai été commettre tel péché, j'ai été dans un bar, je me suis saoulé la gueule. Enfin, bref, il ne va pas s'enorgueillir, s'en vanter auprès des autres en disant, voilà, moi, j'ai fait tel et tel péché. Le prophète nous dit dans un hadith justement à ce sujet-là, que celui qui dissimule sa faute et qui vient rencontrer son Seigneur avec cette faute-là, Dieu ne lui en parlera pas. Et là, l'homme dira à Dieu...
C'est une hypocrisie.
Comment ça ?
C'est une forme d'hypocrisie.
Non, pourquoi ? Ça, c'est entre toi et Dieu. Si tu as fait des péchés, c'est entre toi et Dieu. Si ça te concerne des négligences vis-à-vis de Dieu, d'accord ? Je parle des péchés qui concernent Dieu lui-même. Hein, par exemple, boire de l'alcool, c'est une faute que tu commets vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de Dieu. Ça ne touche pas les autres personnes, les autres individus. Donc, à partir de là, vu que ça ne touche personne d'autre, c'est le péché que tu as commis vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, Allah azza wa jal viendra et sera qu'au fond de toi-même, tu accomplissais ce péché avec, au fond de toi-même, une sorte de regret, de réticence. C'était pas à l'aise, c'était pas bien dans ta peau. Et finalement, tu vas mourir dans cet état-là. Peut-être après avoir demandé pardon à Dieu, mais en tout cas, le serviteur dira à son Seigneur, « Ô Seigneur, aujourd'hui tu m'as jugé et tu me dis de maintenant rentrer au paradis, mais je constate qu'un certain nombre de péchés, tu ne les as pas examinés, tu ne m'en as pas fait part, tu ne m'as pas dit, ouais, mais Abdi, tel jour tu as fait ça, tu ne m'en as pas parlé. Alors que tu sais que, et moi je m'en rappelle, c'est-à-dire moi le serviteur, je sais que tel jour j'ai commis telle faute et tu ne m'en parles pas et tu ne les évoques pas. Et là, qu'est-ce qu'il dira Dieu à son serviteur et à Abdi ? Ô mon serviteur, je les ai cachés dans ce bas monde. Satartuha laka fid dunya. Dans ce bas monde, je les ai cachés, personne n'était au courant. Wa ghafartuha laka yawm al-qiyamah. Maintenant, pas la peine de te tafdah rasak kima ngolo, te dévoiler, je vais pas alors que je t'ai caché dans ce bas monde, venir maintenant le jour du jugement dernier pour te dévoiler. Ça y est, je les ai oubliés, je te les ai pardonnés par ma grande grâce et ma grande miséricorde. Eh bien, mon serviteur, rentre au paradis et ne cherche pas à savoir, à titiller, essayer de me rappeler tel et tel. Obéis à ce que je te dis et va profiter des jouissances du paradis. Voilà ce que Allah Azza wa Jal explique quand il nous rappelle à chaque instant de notre vie qu'il est très important de ne pas oublier que dans ce bas monde nous sommes des gens qui comme vont faire leur commerce, faire leur commission, hein, il prend son panier, il le remplit, il choisit de ce qu'il veut, soit de cochonneries qu'il va trouver dans les poubelles, hein, et il va dire avec ça je vais pouvoir manger, boire, etc. Ou soit il va dans des magasins frais pour aller s'approvisionner en nourriture qui sont propres et nobles. Bien entendu, là je fais une métaphore à celui qui va faire ses courses. Il y en a un qui va au magasin chercher des produits frais et pour nourrir sa famille, sa femme et ses enfants sont contents de ce qu'il a fait. Et l'autre qui lui décide d'un an par économie, je vais aller faire les poubelles. Hein, je vais aller chercher les cochonneries qui sentent mauvais et qui sont périmés, etc. Et qui sont immangeables. Et il va par satisfaction se contenter de cette nourriture immangeable. Bah, c'est pareil pour le croyant. Il choisit, soit il s'approvise dans ce bas monde de bonnes actions. Il se dit, voilà, je vais présenter à mon Seigneur des bonnes actions. Et c'est véritablement ça que vous préservez et qui se pérennise dans l'au-delà. Il y en a qui disent, ouais, moi, à partir du moment où je fais une sadaqa, j'ai perdu de l'argent. Au contraire, c'est cet argent-là que tu as donné à un pauvre que tu gardes. Alors que l'argent que tu as gardé pour toi ou que tu as dépensé à droite à gauche, celui-là, il est parti comme il est venu. Tu n'en verras pas, Dieu ne t'en parlera pas. alors que celui dont il dira, allez, apportez-moi ce que mon serviteur a gardé de côté, a mis de côté, et que moi, Dieu, j'ai développé, j'ai multiplié, j'ai fait gonfler. Il y a un hadith qui dit, je termine juste ça, Fourdel, un cas qui aura fait une petite sadaqa, il viendra le jugement dernier, sa sadaqa aura la taille d'une montagne. Et là, il dira, mais c'est pas ça que j'ai fait comme sadaqa. J'ai donné qu'un euro. Pourquoi je trouve aujourd'hui une montagne de hasanat et de cet argent-là en quantité? Et là, dira Dieu à son serviteur, c'est moi qui a décidé de la cultiver, de la gonfler, comme chacun d'entre vous on va dire éduque et fait grandir un animal de basse-cour, par exemple, il commence un petit poussin et se transforme en poulet, en gros poulet, etc. Eh bien, de la même manière, ce que vous faites vous dans ce bas monde, à développer, à comment on dit, cultiver, on dit cultiver,
on dit
en cultiver,
c'est ça que vous voulez dire,
voilà, cultiver leurs animaux et ce qu'on appelle les activités pastorales.
Ah non, élever plutôt.
Élever, voilà, on va dire élever. Élever, jusqu'à gonfler, jusqu'à qu'elle soit gonflée. Et gonfler, on fait gonfler nos animaux, finalement, à partir du moment où on a un petit agneau et qu'on s'occupe de lui.
On les engraisse.
On va pas forcément engraisser, mais on va le faire grandir de manière à ce qu'il soit bien, au moment où est-ce qu'il est vendable, et on va le vendre au prix fort. Donc voilà, Dieu, c'est la même chose. Il va te rendre ta hasana. Il va te rendre ta hasana après l'avoir élevée et l'avoir gonflée jusqu'à que tu la trouves à une taille incommensurable le jour de la résurrection. Wallillahi tawfiq.
Bon, on parle de la piété ce matin. Si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali Mamoun, vous le faites en direct au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et nous parlons de la bonté en islam avec l'imam Abdelali Mamoun, 01 53 48 3000. Vous serez là pour poser vos questions en direct. Imam Abdelali, alors pourquoi est-ce que Dieu, dans le Coran, associe des injonctions avec la piété?
Oui, on retrouve à maintes fois, dans le début de beaucoup de versets, voire même début de sourate, Dieu dire, faites preuve de piété et accomplissez telle chose et faites ça.
Oui.
C'est tout simplement pour nous expliciter qu'est-ce que véritablement réaliser et mettre en œuvre la piété. Par exemple, quand il dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ô vous les croyants, faites preuve de piété et que chacun d'entre vous regarde ce qu'il va présenter devant son Seigneur le jour du jugement dernier. Mmh. Ça, c'est une piété. Il va dire, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous les croyants, faites preuve de piété et dites des mots bien ciblés, des mots qui sont sensés, des mots qui sont intelligents et qui sont productifs. Il va dire dans d'autres versets, ô vous les croyants, taqu rabbakum, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une âme, d'une seule et même âme. C'est pour nous rappeler que nous sommes une seule et même race, la race humaine. Elle a dit khalaqakum min nafsin wahida. Nous sommes tous issus d'une seule et même origine qui est Adam. Min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha, et que de celle-ci là, il a créé son épouse et sa partenaire. Donc à partir de là, l'injonction, c'est dire faites preuve de piété. On ne vous sentant pas au-dessus des autres parce que vous êtes de telle et telle origine, car finalement vous n'êtes tous que de la même race. Donc le racisme qui consiste à mettre des gens au-dessus des autres et se considérer au-dessus de telle ou telle ethnie, eh bien c'est complètement stupide et c'est même incompatible avec la piété, et etc. Vous avez énormément de versets dans le Coran, mais je vais pas tout relater les versets du Coran qui commencent par Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, ensuite quelque chose. Il y en a tellement, mais en tout cas l'objectif, c'est quand il ajoute une injonction à la piété, c'est tout simplement pour nous expliquer la manière de mettre en œuvre la piété, puisque ce mot piété, on va dire mais c'est quoi ce mot là, ça veut dire quoi? Eh bien c'est tout simplement ce que veut dire Dieu après. Quand par exemple il dit Yaladin man taqullah haqqa tuqate, ô vous les croyants, faites preuve de piété de la meilleure des façons. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, et faites en sorte de ne mourir que en étant soumis à Dieu. Et ensuite qu'est-ce qu'il dit? Wa'tasimu bihablillah jami'a, et associez, à dire liguez-vous Wa'tasimu, ça veut dire liguez-vous, associez-vous, c'est-à-dire ne vous disputez pas, ne vous séparez pas, restez unis comme les mains, comme les doigts d'une main, soyez toujours unis. Wa'tasimu bihablillah, et accrochez-vous à cette corde de Dieu, à la corde de Dieu, en restant unis. Voilà, Dieu une manière d'expliquer ce qu'il attend de nous quand il dit faites preuve de piété. Ça, c'est une manière de réaliser la piété. Et donc le croyant, quand il lit le Coran et qu'il entend Dieu dire « Ya ayyuhalladhina amanu taqullah » pour expliquer, pour comprendre ce qu'il attend de nous en matière de réalisation de la piété, eh ben il suffit de lire la suite, car le Coran s'explique lui-même. C'est le Coran qui va expliquer le Coran. C'est toujours très important d'utiliser d'abord le Coran pour expliquer le Coran, pour faire un travail d'exégèse narratif, ce qu'on appelle « at-tafsir bir-riwaya ». On commence par expliquer le Coran en cherchant dans le Coran la définition d'un mot. Et il y en a plein des exemples dans ce sens-là, où beaucoup de mots qui sont très ambigus, dont le sens est même n'est pas courant dans le langage arabe. Je te donne un exemple, par exemple. Dieu dans le Coran, il dit, Philippe, « Inna l'insana khuliqa halu'a ». L'homme a été créé halu'a. C'est quoi ce mot halu'a? Halu'a, déjà, il n'est pas joli. Donc c'est un mot
déjà, moi j'aurais du mal à le prononcer. Imam
halu'a, c'est un verset du Coran, je te promets. Alors, les Arabes, ils ont commencé, et même les exégètes ont commencé à se pencher sur ce mot-là, pour comprendre, mais qu'est-ce que Dieu veut dire par le fait que Dieu a créé l'homme, halu'a. Qu'est-ce que ça veut dire, halu'a? Bien, au lieu d'aller chercher dans les dictionnaires, dans la poésie arabe, dans les citations des tels ou tels personnages, eh bien, cherchons d'abord des explications du Coran lui-même, c'est-à-dire que Dieu lui-même va expliquer ce mot. Eh bien, il explique tout de suite après, il dit, إِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوعَ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où qu'il est dans la facilité, eh bien, il va être gripsou, il va être égoïste, il va être avare, et quand il est dans l'adversité, il va se plaindre. Il va commencer à chouiner et à pleurnicher. Voilà ce qu'est l'homme. Donc finalement, qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer? Que le muhalu'a, c'est tout simplement le fait que l'homme soit dans un état émotionnel lunatique, versatile, constamment, selon les circonstances, il va changer d'humeur. Si les choses vont bien, eh bien, il va être égoïste, il va être avare, il va être dans l'autosatisfaction, alors que quand il va être dans le manque, dans le besoin, dans la difficulté, dans la contrainte, eh bien, il va commencer à pleurnicher et à se plaindre, oh mon Dieu, nanani, nananer. Et là, son état émotionnel, là encore une fois, aura changé. C'est ce que Dieu veut nous dire quand il dit que dans la nature même de l'homme que j'ai créé, j'ai mis en lui ce tempérament d'être pour la plupart du temps lunatique, versatile, avec humeur changeante, etc. Une fois il est en colère, une fois il est triste, une fois il est joyeux, une fois il est malheureux, une fois ceci, cela. Donc à chaque fois, l'être humain dans sa vie, selon ce qui lui arrive, ce qu'il constate autour de lui, va avoir une humeur et un sentiment différent. Voilà ce que nous dit quand Allah Azza wa Jalla. Et il y a comme cela plein de mots dans le Coran qui, même pour certains, resteront ambigus. Les savants resteront dans différents avis pour nous dire quoi? Pour nous dire que finalement l'important, c'est de comprendre le sens de ce verset-là, la finalité du verset, et que le détail qui nous explicite le sens de manière étymologique, eh bien, n'a pas d'importance.
Alors, nous avons Mohamed qui est au standard au 01 53 48 3000. Mohamed, bienvenue.
Oui, allô?
Oui, Mohamed, vous êtes le bienvenu. Oui.
Bonjour.
Bonjour. Salam alaykoum, Khoya Labas.
Ça va, alhamdoulilah. Moi, j'ai juste une question parce que depuis 4 ans, j'ai une petite fille, je suis divorcé. Elle a bientôt 8 ans, elle vient avec moi. J'ai un jugement de juge qui je la garde. Elle n'a pas le droit de visite de sa mère. Mais sa mère, elle marche sur le téléphone chaque fois pour que je le ramène. Et là, je ne sais pas quoi faire.
Alors, j'ai une question. Est-ce que sa mère peut constituer un danger pour sa fille?
Oui.
C'est-à-dire, oui. هل يمكن لهذه المرأة الأم أن تمثل خطرا على ابنته ابنتها?
C'est ça qu'ils ont constaté, que la petite, elle ne peut pas caresser parce que sa mère, parce qu'elle raconte n'importe quoi, elle parle de n'importe quoi. Franchement, elle n'est pas bien dans sa tête.
Donc, est-ce qu'elle est une menace pour l'enfant? Mais pas simplement une menace physique, ça peut être une menace morale, c'est-à-dire elle va la perturber, elle va la traumatiser, est-ce que ça peut être...
Ouais, c'est ça, parce que voilà. Même des fois je la passe au téléphone, et elle commence à raconter des n'importe quoi. Enfin, franchement, c'est moi pas
la peine. Et est-ce que la fille réclame sa mère?
Non.
Elle réclame pas sa mère? Elle veut pas voir sa maman?
Non, non, elle veut pas.
D'accord.
Mais c'est pas elle veut pas, elle veut. Mais elle veut pas rester chez elle. Elle me dit ouais, je pars voir maman. Bah,
tu savais qu'il existe une des décisions que peut prendre parfois des juges aux affaires familiales, c'est un droit de visite, mais pas de garde. C'est-à-dire que la maman peut avoir le droit de voir sa fille en présence. Juste termine ma phrase. Après tu réponds. Je disais que le juge aux affaires familiales peut décider d'autoriser la maman à voir son enfant en présence d'un adulte. C'est-à-dire soit en présence du père, ou en présence de la tante, ou en présence d'une personne, de manière à ce qu'elle soit sûre qu'elle ne va pas lui tenir des propos qui pourraient perturber l'enfant. Mais en même temps, ça ne l'empêchera pas de montrer de l'affection, et elle-même de pouvoir un peu soulager son manque d'affection parce que elle n'a pas son enfant avec elle. Donc c'est à toi de voir, Khoya, vu que le juge ou la juge aux affaires familiales ne lui a pas donné la permission de voir son enfant, tu as le droit d'utiliser ce droit qui t'a été accordé par la loi, c'est la loi, hein. C'est le juge, c'est la loi, le juge. Hein. Mais tu peux décider de dire, bon, moi je veux bien, on fait un essai, on verra bien. Si elle se tient à carreau et qu'elle ne tient pas des propos perturbants à l'enfant, eh bien je veux bien qu'elle lui fasse des câlins, qu'elle la voie, etc., en présence d'une autre personne. Et après, à l'issue de cette rencontre qui peut durer une demi-heure ou une heure, peu importe, eh bien tu reprends l'enfant et tu repars avec. Mais tu ne le laisses pas tout seul avec la maman. À partir du moment où le juge n'a pas autorisé le droit de garde et d'hébergement. Parce que s'il lui arrive quelque chose, c'est toi le responsable.
Voilà. Mais le problème, c'est ça que je ne comprends pas. Parce que il y a un an, le juge il a donné un droit de visite dans un centre spécialisé.
Mais voilà, donc maman, avec la présence d'une tierce personne. Voilà,
c'est des gens spécialisés. Donc ça, elle sera accompagnée avec elle. Mais la maman, elle n'a jamais demandé la visite pendant presque 6 mois. Et après, ils ont dit pendant 3 fois, si elle n'a pas visité sa fille, elle n'a pas demandé, ça annule tous ses droits.
Ah, regarde. Bon, écoute, je vais répondre à ta question en ne répondant pas à ta question, si tu veux. C'est un peu bizarre ce que je dis. Tu vas comprendre. Finalement, il existe une marge dans laquelle Allah Azzawajal ne se mêle pas et vous laisse, vous, l'arbitrage de décider, de prendre votre décision selon ce qui vous semble le plus juste et le plus judicieux. C'est à toi de prendre ces décisions et d'assumer la responsabilité de tes choix. Tu décides de lui donner la possibilité de voir son enfant, tu peux le faire. Moi, je ne vais pas te dire non, fais le pas, etc. C'est pas à moi de jouer ce rôle-là. Et ni même à la religion de s'en mêler. Et y compris le fait de décider de ne pas laisser voir l'enfant. C'est à toi aussi de choisir, si tu veux faire ce choix-là, c'est à toi de le faire à partir du moment où des experts, des psychologues, des pédopsychologues, etc. ont décidé que la maman n'était pas en mesure de voir l'enfant, eh bien c'est qu'il y a une raison, et une raison, on va dire, valable. Ouais. Ouais. Donc tu as le droit de suivre le point de vue de ces spécialistes, parce qu'il y a forcément une expertise qui a été réalisée pour décider si la maman était en mesure de voir l'enfant ou pas. Et là apparemment la décision c'est non, c'est que le juge n'a pas pris cette décision-là de son propre chef, mais il a consulté des rapports, des décisions qui ont été prises par des psychiatres ou des psychologues, je sais pas, et qui ont dit non, cette femme elle n'est pas apte à recevoir ni même à rencontrer son enfant, elle pourrait la perturber. Donc c'est ce genre de décision, c'est à toi de réfléchir le pour et le contre et de prendre tout seul ta décision et ne pas mêler la religion à cela. On n'a pas, nous les imams, à dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la vie. C'est à vous de arrêtons de penser et d'imaginer que l'islam doit se mêler de tout. Non, l'islam il impose une ligne rouge dans les extrêmes, à ne pas dépasser, mais au milieu, entre ces deux lignes rouges, vous avez toute une marge de flexibilité et de choix à faire dans votre vie. Si je décide d'étudier, si je décide de travailler, si je décide de me marier avec telle ou telle femme ou pas, ou avec une autre, ça, c'est des choses de la vie où chacun fait son choix. La religion n'a pas à s'en mêler. Donc, si tu veux, je réponds pas à ta question parce que je renvoie à ton intelligence, à ta capacité de bon sens, de faire le bon choix pour le bien-être de ta fille.
Voilà ce que l'imam Abdelali Mamoun pouvait vous dire, Mohamed, ce matin. Merci pour votre question. On reviendra dans un instant. L'islam au présent, vous le savez, c'est jusqu'à 11h sur Beurre FM, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000, si vous avez une question à poser à l'imam Abdelali.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et nous parlons de la bonté en islam avec l'imam Abdelali Mamoun, 01 53 48 3000. Vous serez là pour poser vos questions en direct. Imam Abdelali, alors pourquoi est-ce que Dieu, dans le Coran, associe des injonctions avec la piété?
Oui, on retrouve à maintes fois dans le début de beaucoup de versets, voire même début de sourate, Dieu dire « faites preuve de piété et accomplissez telle chose et faites ça
oui. ».
C'est tout simplement pour nous expliciter qu'est-ce que véritablement réaliser et mettre en œuvre la piété. Par exemple, quand il dit « Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad » ou vous les croyants, faites preuve de piété et que chacun d'entre vous regarde ce qu'il va présenter devant son Seigneur le jour du jugement dernier. Mmh. Ça, c'est une piété. Il va dire, « Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida » ou vous les croyants, faites preuve de piété et dites des mots bien ciblés, des mots qui sont sensés, des mots qui sont intelligents et qui sont productifs. Il va dire dans d'autres versets, « Ou vous les croyants, taqu rabbakum » craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une âme, d'une seule et même âme. C'est pour nous rappeler que nous sommes une seule et même race, la race humaine. Elle a dit khalaqakum min nafsin wahida. Nous sommes tous issus d'une seule et même origine qui est Adam. Min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha, et que de celle-ci là, il a créé son épouse et sa partenaire. Donc à partir de là, l'injonction c'est dire faites preuve de piété. On ne vous sentant pas au-dessus des autres parce que vous êtes de telle et telle origine, car finalement vous n'êtes tous que de la même race. Donc le racisme qui consiste à mettre des gens au-dessus des autres et se considérer au-dessus de telle ou telle ethnie, eh bien c'est complètement stupide et c'est même incompatible avec la piété, et etc. Vous avez énormément de versets dans le Coran, mais je vais pas tout relater les versets du Coran qui commencent par Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, ensuite quelque chose. Il y en a tellement, mais en tout cas l'objectif c'est quand il ajoute une injonction à la piété, c'est tout simplement pour nous expliquer la manière de mettre en œuvre la piété, puisque ce mot piété, on va dire mais c'est quoi ce mot là, ça veut dire quoi? Eh bien c'est tout simplement ce que veut dire Dieu après. Quand par exemple il dit Yaladin man taqullah haqqa tuqate, ô vous les croyants, faites preuve de piété de la meilleure des façons. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, et faites en sorte de ne mourir que en étant soumis à Dieu. Et ensuite qu'est-ce qu'il dit? Wa'tasimu bihablillah jami'a, et liguez-vous. Wa'tasimu ça veut dire liguez-vous, associez-vous, c'est-à-dire ne vous disputez pas, ne vous séparez pas, restez unis comme les mains comme les doigts d'une main, soyez toujours unis. Wa'tasimu bihablillah, et accrochez-vous à cette corde de Dieu, à la corde de Dieu, en restant unis. Voilà Dieu, une manière d'expliquer ce qu'il attend de nous quand il dit faites preuve de piété. Ça c'est une manière de réaliser la piété. Et donc le croyant, quand il lit le Coran et qu'il entend Dieu dire Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, pour expliquer, pour comprendre ce qu'il attend de nous en matière de réalisation de la piété, eh bien il suffit de lire la suite, car le Coran s'explique lui-même. C'est le Coran qui va expliquer le Coran. C'est toujours très important d'utiliser d'abord le Coran pour expliquer le Coran, pour faire un travail d'exégèse narratif, ce qu'on appelle at-tafsir bir-riwaya. On commence par expliquer le Coran en cherchant dans le Coran la définition d'un mot. Et il y en a plein des exemples dans ce sens-là, où beaucoup de mots qui sont très ambigus, dont le sens est même n'est pas courant dans le langage arabe. Je te donne un exemple, par exemple. Dieu dans le Coran, il dit, Philippe, « Inna l'insana khuliqa halu'a ». L'homme a été créé halu'a. C'est quoi ce mot halu'a? Halu'a, déjà, il n'est pas joli. Donc c'est un mot
déjà, moi j'aurais du mal à le prononcer. Imam
halu'a, c'est un verset du Coran, je te promets. Alors, les Arabes, ils ont commencé, et même les exégètes ont commencé à se pencher sur ce mot-là, pour comprendre, mais qu'est-ce que Dieu veut dire par le fait que Dieu a créé l'homme, halu'a. Qu'est-ce que ça veut dire, halu'a? Bien, au lieu d'aller chercher dans les dictionnaires, dans la poésie arabe, dans les citations des tels ou tels personnages, eh bien, cherchons d'abord des explications du Coran lui-même, c'est-à-dire que Dieu lui-même va expliquer ce mot. Eh bien, il explique tout de suite après, il dit, « Idha massahu sharru jazu'a » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où qu'il est dans la facilité, eh bien, il va être gripsou, il va être égoïste, il va être avare, et quand il est dans l'adversité, il va se plaindre. Il va commencer à chouiner et à pleurnicher. Voilà ce qu'est l'homme. Donc finalement, qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer? Que le muhaloua, c'est tout simplement le fait que l'homme soit dans un état émotionnel lunatique, versatile, constamment, selon les circonstances, il va changer d'humeur. Si les choses vont bien, eh bien, il va être égoïste, il va être avare, il va être dans l'autosatisfaction, alors que quand il va être dans le manque, dans le besoin, dans la difficulté, dans la contrainte, eh bien, il va commencer à pleurnicher et à se plaindre, oh mon Dieu, nanani, nananer. Et là, son état émotionnel, là encore une fois, aura changé. C'est ce que Dieu veut nous dire quand il dit que dans la nature même de l'homme que j'ai créé, j'ai mis en lui ce tempérament d'être pour la plupart du temps lunatique, versatile, avec humeur changeante, etc. Une fois il est en colère, une fois il est triste, une fois il est joyeux, une fois il est malheureux, une fois ceci, cela. Donc à chaque fois, l'être humain dans sa vie, selon ce qui lui arrive, ce qu'il constate autour de lui, va avoir une humeur et un sentiment différent. Voilà ce que nous dit quand Allah Azza wa Jalla. Et il y a comme cela plein de mots dans le Coran qui, même pour certains, resteront ambigus. D'ailleurs, les savants resteront dans différents avis pour nous dire quoi? Pour nous dire que finalement l'important, c'est de comprendre le sens de ce verset-là, la finalité du verset, et que le détail qui nous explicite le sens de manière étymologique, eh bien, n'a pas d'importance.
Alors, nous avons Mohamed qui est au standard au 01 53 48 3000. Mohamed, bienvenue.
Oui, allô?
Oui, Mohamed, vous êtes le bienvenu. Oui.
Bonjour.
Bonjour. Salam alaikum, Khoya Labas.
Ça va, alhamdoulilah. Moi, j'ai juste une question parce que depuis 4 ans, j'ai une petite fille, je suis divorcé. Elle a bientôt 8 ans, elle vient avec moi. J'ai un jugement de juge qui la garde. Elle n'a pas le droit de visite de sa mère. Mais sa mère, elle m'harcèle au téléphone chaque fois pour que je le ramène. Et là, je ne sais pas quoi faire.
Alors, j'ai une question. Est-ce que sa mère peut constituer un danger pour sa fille?
Oui.
C'est-à-dire, هل يمكن لهذه المرأة الأم أن تمثل خطرا على ابنته ابنتها?
C'est ça qu'ils ont constaté, que la petite, elle ne peut pas caresser parce que sa mère, parce qu'elle raconte n'importe quoi, elle parle de n'importe quoi. Franchement, elle n'est pas bien dans sa tête.
Donc, est-ce qu'elle est une menace pour l'enfant? Mais pas simplement une menace physique, ça peut être une menace morale, c'est-à-dire elle va la perturber, elle va la traumatiser, est-ce que ça peut être...
Ça, parce que voilà. Même des fois, je la passe au téléphone et elle commence à raconter n'importe quoi, enfin, franchement,
c'est moi pas le temps. Et est-ce que la fille réclame sa mère?
Non.
Elle réclame pas sa mère? Elle veut pas voir sa maman?
Non, elle veut pas.
D'accord.
Mais c'est pas elle veut pas, elle veut... Mais elle veut pas rester chez elle. Elle me dit ouais, je pars voir maman. Bah,
vous savez qu'il existe une des décisions que peut prendre parfois des juges aux affaires familiales, c'est un droit de visite, mais pas de garde. C'est-à-dire que la maman peut avoir le droit de voir sa fille en présence. Juste termine ma phrase. Après tu réponds. Ma phrase après. Je disais que le juge aux affaires familiales peut décider d'autoriser la maman à voir son enfant en présence d'un adulte. C'est-à-dire soit en présence du père, ou en présence de la tante, ou en présence d'une personne, de manière à ce qu'elle soit sûre qu'elle ne va pas lui tenir des propos qui pourraient perturber l'enfant. Mais en même temps, ça ne l'empêchera pas de montrer de l'affection, et elle-même de pouvoir un peu soulager son manque d'affection parce que elle n'a pas son enfant avec elle. Donc c'est à toi de voir, Khoya, vu que le juge ou la juge aux affaires familiales ne lui a pas donné la permission de voir son enfant, tu as le droit d'utiliser ce droit qui t'a été accordé par la loi, c'est la loi, hein. C'est le juge, c'est la loi, le juge. Hein.
C'est ça.
Bien, mais tu peux décider de dire, bon, moi je veux bien, on fait un essai, on verra bien. Si elle se tient à carreau et qu'elle ne tient pas des propos perturbants à l'enfant, eh bien je veux bien qu'elle lui fasse des câlins, qu'elle la voie, etc., en présence d'une autre personne. Et après, à l'issue de cette rencontre qui peut durer une demi-heure ou une heure, peu importe, eh bien tu reprends l'enfant et tu repars avec. Mais tu ne le laisses pas tout seul avec la maman. À partir du moment où le juge n'a pas autorisé le droit de garde et d'hébergement. Parce que s'il lui arrive quelque chose, c'est toi le responsable.
Voilà. Mais le problème, c'est ça que je ne comprends pas.
Parce que la dernière, il y a un an, le juge il a donné un droit de visite dans un centre spécialisé.
Mais voilà, donc maman, avec la présence d'une tierce personne, voilà.
Voilà, c'est des gens spécialisés, donc ça, elle sera accompagnée avec elle. Mais la maman, elle n'a jamais demandé la visite pendant près de 6 mois. Et après, ils ont allé, ils ont dit pendant 3 fois, si elle n'a pas visité sa fille, elle n'a pas demandé, ça annule tous ses droits.
Ah, regarde. Bon, écoute, je vais répondre à ta question en ne répondant pas à ta question, si tu veux. C'est un peu bizarre ce que je dis. Tu vas comprendre. Finalement, il existe une marge dans laquelle Allah Azzawajal ne se mêle pas et vous laisse, vous, l'arbitrage de décider, de prendre votre décision selon ce qui vous semble le plus juste et le plus judicieux. C'est à toi de prendre ces décisions et d'assumer la responsabilité de tes choix. Tu décides de lui donner la possibilité de voir son enfant, tu peux le faire. Moi, je ne vais pas te dire non, fais le pas, etc. C'est pas à moi de jouer ce rôle-là. Et ni même à la religion de s'en mêler. Et y compris le fait de décider de ne pas laisser voir l'enfant. C'est à toi aussi de choisir, si tu veux faire ce choix-là, c'est à toi de le faire à partir du moment où des experts, des psychologues, des pédopsychologues, etc. ont décidé que la maman ne pouvait pas, n'était pas en mesure de voir l'enfant, eh bien, c'est qu'il y a une raison. Et une raison, on va dire, valable. Ouais. Ouais. Donc, tu as le droit de suivre le point de vue de ces spécialistes, parce qu'il y a forcément une expertise qui a été réalisée pour décider si la maman était en mesure de voir l'enfant ou pas. Et là, apparemment, la décision, c'est non. C'est que le juge n'a pas pris cette décision-là de son propre chef, mais il a consulté des rapports, des décisions qui ont été prises par des psychiatres ou des psychologues, je ne sais pas. Et qui ont dit, non, cette femme, elle n'est pas apte à recevoir ni même à rencontrer son enfant, elle pourrait la perturber. Donc c'est ce genre de décision, c'est à toi de réfléchir le pour et le contre et de prendre tout seul ta décision et ne pas mêler la religion à cela. On n'a pas, nous les imams, à dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la vie. C'est à vous de arrêtons de penser et d'imaginer que l'islam doit se mêler de tout. Non, l'islam il impose une ligne rouge dans les extrêmes à ne pas dépasser, mais au milieu entre ces deux lignes rouges, vous avez toute une marge de flexibilité et de choix à faire dans votre vie. Si je décide d'étudier, si je décide de travailler, si je décide de me marier avec telle ou telle femme ou pas, ou avec une autre, ça c'est des choses de la vie où chacun fait son choix. La religion n'a pas à s'en mêler. Donc si tu veux, je réponds pas à ta question parce que je renvoie à ton intelligence, à ta capacité de bon sens, de faire le bon choix pour le bien-être de ta fille.
Voilà ce que l'imam Abdelali Mamoun pouvait vous dire, Mohamed, ce matin. Merci pour votre question. On reviendra dans un instant. L'islam au présent, vous le savez, c'est jusqu'à 11h sur Beurre FM, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000, si vous avez une question à poser à l'imam Abdelali.
L'islam au présent revient dans un instant.